Ere tov.
Bezat Hashem, aujourd'hui nous allons continuer notre développement concernant les couleurs et d'une manière générale en fait l'accès de l'infini béni soit-il dans notre monde. Je vous rappelle que c'est selon cet accès à notre monde que nous pouvons vivre ce que nous vivons. Et si nous nous fermons à cet accès, eh bien nous sommes beaucoup plus proches de la mort que de la vie. Il est inversé dans Divrei Hayamim, Da et Elohe Avicha ve'avdehu. Il faut que tu te connectes, il faut que tu connaisses dans le sens de la connaissance, qui est beaucoup plus connexion que intellect, le Dieu de ton Père pour le servir. Autrement dit, tu dois en fait te connecter à une certaine racine en sachant que cette racine fait partie de toi lorsque tu la vis. On ne te dit pas de te connecter à Dieu. On te dit de te connecter au Dieu de ton Père. Pourquoi ? Parce que la Torah sait très bien que le Père, en réalité, continue sa vie à travers le Fils. Et de la même manière qu'il y a continuité de la vie du Père à travers le Fils, la Torah vient t'enseigner que c'est de la même manière que tu devrais vivre l'Éternel. Et on va essayer de comprendre cette chose parce que c'est profond. Toutes nos connaissances, d'une manière générale, viennent à partir de nos cinq sens. Nous ne savons pas appréhender quelque chose dans ce monde si ce n'est pas par les sens. Je vois, j'entends, je goûte, je touche, je sens, c'est tout. Le problème, c'est que ces sens sont limités. Par exemple, le sens olfactif d'un chien est, je ne sais pas combien de fois, plus développé que celui de l'homme. Le sens auditif d'une chauve-souris, ça dépasse de loin le sens auditif de l'homme. Ce qui veut dire que tout ce que nous percevons dans notre vie, étant donné qu'il est limité parce que nos sens sont limités, eh bien, il y a un décalage énorme entre l'objectif, je l'appelle ici donc l'infini, béni soit-il, et ce que tu peux réellement voir, appréhender, toucher, absorber de cet infini. Donc si l'infini, béni soit-il, est infini, étant donné que tes sens à toi sont limités, eh bien, combien tu vas capter de cet infini ? Ce qui peut passer par toi. Pas plus. Autrement dit, ta vision de l'infini, ton appréhension de l'infini, dépend de la qualité de tes sens. Je vais le dire d'une manière beaucoup plus simple, comme le dit le Maharal dans Netzach Israël, au chapitre 43, Hakol mitzad hamekabel. Tout ce qui nous arrive dans ce monde, c'est selon comment moi j'appréhende cette chose. En réalité, il n'y a rien réellement de vrai pour moi, si ce n'est que comment moi j'ai vécu la chose que je viens de voir. Donc face à un événement quelconque, il y a une différence énorme de perception. Je suis en train de donner un cours, chacun d'entre vous est en train de recevoir le cours d'une manière différente complètement. Mais complètement, c'est incroyable. Si je vous demande maintenant de répéter ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, vous allez avoir autant de facettes que de personnes qui sont assises ici. Alors que moi, j'ai dit ce que j'ai dit. Ça a l'air d'être objectif. Eh bien, ça passe et ça ne passe que par votre subjectivité. Moralité, il y a un décalage qui peut se créer entre deux éléments, entre deux êtres, et d'une manière générale, entre moi, ce que je dis, et ce que vous percevez. Alors ça, c'est moi. Mais lorsqu'il s'agit de l'infini, béni soit-il, c'est énorme. Ça veut dire qu'on est incapable de recevoir quoi que ce soit de l'infini, béni soit-il, si ce n'est, et de le comprendre, si ce n'est que par rapport au prisme de réception subjective qui correspond à ma nature, à moi, pas à celle de mon voisin. Ça veut dire que tout le système de notre conception des choses, de notre connaissance, de la prise de conscience des choses, est complètement tout ce système-là subjectif. Lorsque je comprends ça, je commence à comprendre qu'en réalité, il faut que j'arrête de penser à la vie pour commencer à vivre. Il y a des gens qui pensent à la vie, mais qui ne vivent pas. En réalité, ils ont l'impression de penser à quelque chose de très très grand, mais tu ne peux pas en réalité penser à cette chose-là, parce que la seule réalité dans ta vie, c'est celle qui va te traverser. Donc si tu penses à un élément qui est en dehors de toi, et je vais dire maintenant quelque chose de très grave, si vous pensez que Dieu est extérieur à vous et qu'il se trouve en haut, quelque part, comme un enfant qui ne comprend rien, eh bien en réalité vous ne vivez rien du divin. Alors que tout le divin que vous pouvez vivre un jour dans votre vie, c'est seulement celui que vous imprégnez dans vos sens, que vous vivez réellement. Étant donné que c'est lui la source de la vie, plus je vis, plus je suis proche de lui. Moins je vis, moins je suis proche de lui. Parce que, en réalité, ce qui est vrai dans ma vie, c'est seulement la chose qui m'a pénétré. Parce qu'en réalité, je suis subjectif, donc ce qui me traverse, pour moi, c'est la vérité. Ce qui ne me traverse pas, c'est étranger à moi. Donc en réalité, toute ma conception, toute ma perception, c'est mon moi. Je n'ai rien d'autre. Donc, le fait même que je sois vivant, et que je vive en réalité cette réalité, mais qui m'est propre, elle est subjective, eh bien, c'est la seule possibilité que j'ai de toucher l'objectif divin. Là, je suis en train de boire un verre d'eau. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam, Shakol Nihya Midvaro.
Amen.
Ce que je viens de faire maintenant, c'est subjectif. J'ai senti un liquide rentrer dans mon corps, qui va en réalité régénérer, je me sens mieux, j'avais soif. Donc en réalité, j'ai permis à un détail de l'infini de rentrer à travers mon prisme à moi, mon écran à moi. C'est la seule chose de vrai, donc je suis en train de vivre un petit peu mieux que tout à l'heure. Léat, on y arrive. Ça veut dire que, précisément par mon « moi », eh bien, je peux appréhender l'absolu. Je ne peux pas l'appréhender autrement que par mon « moi ».
Il n'y a rien de plus fini que de boire de l'eau et c'est fini, quoi.
Parfait. C'est pour ça qu'en réalité, c'est la seule chose qui est vraie pour moi pour l'instant. Tout le reste, tu peux me dire ce que tu veux, mais je ne peux pas toucher l'infini, béni soit-il, qui par conséquent c'est infini. Donc comment je peux toucher l'infini? Par le fini. C'est tout. C'est énorme. Ça veut dire qu'en réalité, Quand je travaille mon moi, quand je travaille mon être, et je développe en moi la capacité à capter de plus en plus, à élargir en réalité ce que je capte de l'univers, eh bien, je suis de plus en plus vivant. Et si, chas v'shalom, je me ferme aux avantages de l'infini, qui me pénètrent, qui veulent me pénétrer, parce qu'en réalité, je les vis, comment est-ce que l'infini, béni soit-il, Akadosh Baruch Hu, se dévoile? Eh bien, à travers moi, à travers ma vie. Quand je vis, c'est la plus grande des preuves de l'existence de Dieu. À travers le fait que je marche dans la rue. C'est difficile ce que je suis en train de vous dire?
Non.
Ça veut dire qu'en réalité, plus je suis actif, plus je prouve que Dieu est la source de la vie. Je vous ai dit à plusieurs reprises que la mort, c'était un chilou l'Hachem. Maintenant, vous comprenez pourquoi. La mort, c'est la profanation de ce dévoilement. Puisque ce dévoilement ne se voit plus, la personne est enterrée, c'est fini, elle est hors circuit, entre guillemets. Donc en réalité, il y a moins de présence divine dans ce monde, parce qu'il y a des acteurs qui viennent de partir. Donc ça s'appelle profaner son nom, profaner son dévoilement. Donc je dois immédiatement faire un kiddush, Hachem, pour corriger. Donc je suis obligé de faire le kaddish. Le kaddish va accélérer en fait ce qui a disparu parce que telle et telle personne sont mortes. Et maintenant il va falloir que je remplisse le flux, que je le remplace par le kaddish que je suis en train de faire. Incroyable. Et donc si j'ai cette capacité à vouloir de plus en plus me remplir, recevoir de cet infini, eh bien, c'est un moteur qui se développe à l'intérieur de moi de vouloir plus, d'avancer et d'élargir mon être. C'est ce que les gens ne comprennent pas et que les kabbalistes nous enseignent. Ceux qui veulent plus dans ce monde, c'est pas parce qu'ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont, c'est parce qu'ils veulent être un petit peu plus divin.
Alors excusez-moi, en parlant de la mort, il n'y a plus la présence de Dieu en quelque sorte.
D'une manière dévoilée.
Et pourtant il y a les 11 mois de l'éveil où on ne doit pas vivre, on ne doit pas écouter, on ne doit pas voyager, etc.
C'est pour ça qu'il y a une extinction à cause de la disparition de l'être aimé. Il y a une extinction de divin dans ce monde. La preuve c'est qu'on coupe certains degrés. À partir du moment où je m'interdis d'être heureux, ça sous-entend que je vis moins.
Alors donc on devrait arrêter de faire ce Evel.
C'est pour ça qu'il y a une fin au Evel.
Mais c'est un drôle de paradoxe tout ça. C'est Hachem qui décrète la mort. Baruch Dayan Haemet.
Pas du tout.
Mais alors,
pas du tout.
Absolument.
Pas du tout. Il a donné une possibilité à la mort au premier homme. Et il lui a dit, si tu manges, tu meurs. Sous-entendu, si tu ne manges pas, tu ne mourras pas.
Mais j'ai dépassé tout ça, je parle de
nous. Mais non, mais c'est la même chose. On ne peut pas dépasser tout ça. Si Adam Arishon, on va maintenant rentrer dans la supposition qu'Adam Arishon ait mangé de l'arbre de la vie, il y aurait eu la mort.
Non, non, il n'y aurait pas eu mort.
Donc on ne peut pas dépasser tout ça. Tout dépend de ça. C'est pour ça que notre seule correction, c'est corriger Adam Arishon. Et donc la faute qu'il a faite. Et une fois que cette faute est corrigée, on enlève, on avale la mort par quoi? Par la vie. Bila. Il faut l'avaler. Donc ça ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. C'est une des possibilités. Mais toi, tu avais la possibilité de faire autre chose. Donc il y a un problème. Il y a un problème.
Il y a un très grand problème.
Ben oui. Si on dit que Dieu veut la mort, on enlève plein de psukim de la Torah. Et je vais vous les citer, comme ça vous êtes tranquille. Kilot arpots bemot hamet. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, Akadosh Baruch Hu, je ne veux pas que tu meurs. Il n'y a pas plus que ça. Ou bacharta bachaim, tu choisiras la vie. Pourquoi? Si c'est lui qui décrète, ça fait partie de la même chose. Pas du tout. Pourquoi on meurt tous? Parce qu'on n'a pas encore corrigé la faute du premier homme. C'est tout. Donc on est encore dans ce système. Mais ça ne veut pas dire que c'est notre vraie nature.
Alors, il y a des gens qui sont capables de corriger la faute d'Adam Harishon et de jamais mourir.
Ben voilà. Il y en a cinq qui l'ont fait durant le Tanakh. Eliyahu Hanavi, le père de Moshe Rabbeinu Amra, et nous, voilà. Mais maintenant, c'est pareil. Que ce soit hier ou avant-hier, si quelqu'un a pu le faire, c'est que ça existe. Et la Torah nous donne des exemples de gens qui sont partis de ce monde seulement parce que il fallait, en attendant, corriger cette faute-là, mais ils sont encore vivants.
C'est qui, les
saints? Le Rachou, maintenant, c'est un cours à part entière, mais je viens de citer deux d'entre eux. Ça veut dire que normalement, je dois être actif, de plus en plus vivant, pour en réalité faire du Kiddush Hashem. Plus je vis, plus je suis Mekadesh et Hashem. Lohametim Yehalleluya. Quoi? Eh bien, changez tous ces versets-là. Chas v'shalom, le prochain Hallel, Yarosh Rodesh bientôt. Eh bien, enlevez tout ça, dites Hametim Yehalleluya. Je ne suis pas d'accord. Chas
v'shalom. Celui qui a dit Hametim Yehalleluya, il est mort aussi, David Amen.
Encore une fois, ça veut dire je suis dans une impossibilité de louer Dieu après que je sois mort. Ça veut dire quoi? Dommage,
oui.
J'aurais dû louer Dieu tant que je suis vivant. Sinon, je tombe dans la chrétienté. Et dans ceux qui pensent que la mort te rapproche de Dieu. Voilà, c'est ça le problème. Et ça, c'est la religion de 2000 ans d'exil, où on est tombé dans cette erreur, où les gens pensent que les gens qui sont morts sont plus proches de Dieu que les vivants. Et c'est un grand problème. Bemotam tzivul anu chaim. C'est exactement l'inverse. Va omar lach bedamaich chayi. Je t'ordonne de vivre. Ou bacharta bachayim. Ki lo echpots bemotamet. Ki im beshuvo vechaya. Je veux qu'il revienne et qu'il vive. Vous voulez encore des versets? Jusqu'à demain matin, je peux vous en donner. Ça veut dire qu'en réalité, il y a ici un accès mature au divin ou un accès infantile. C'est tout. Et c'est pour ça que les Talmidei Chachamim, nous dit la Gemara dans le traité de Brachot 64, « Elem menucha, yelchu mechai echai. » Un Talmid Chacham, comment est-ce que tu le vois? Il est chiouni, comment on dit? Vital. Il a la vitalité en lui. S'il est dans l'extinction, c'est qu'il est en train de faire du Chilul Hashem. L'extinction va amener après elle la tristesse. La tristesse va amener après elle la fermeture des sens, encore plus. Il va devenir en réalité quelqu'un qui ne peut pas se laisser traverser par l'infini, béni soit-il.
Mais la résurrection des morts qu'on demande...
C'est pour ça, justement, c'est encore une réponse.
Elle corrige...
Ben badaï, c'est encore la réponse ultime à tout ce que je viens de dire. Si c'était... La nature, on n'a pas besoin de la résurrection des morts. Pourquoi vous demandez Baruch Ata Adonai Mechaya Metim? Il n'y a pas besoin, puisque c'est la volonté de Dieu. Ça continue, on s'en fiche.
Bien sûr que c'est la volonté de Dieu.
Alors, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on revienne à la vie, et pas qu'on reste dans la mort. Donc on corrige la faute du premier homme. Si on accepte la mort comme un
décret,
ça veut dire qu'en réalité, on a... considérer qu'il y a une force dans ce monde qui est plus forte que la vie, donc la mort, donc elle est plus forte que Dieu. C'est ce qu'on dit les Meraglim, qui chazaku mimenu. Mais c'est pour ça qu'ils ont été autant punis. Quelle était la punition des Meraglim? Pas seulement qu'ils ne soient pas rentrés sur la terre, que la prophétie soit arrêtée. Qu'est-ce que ça veut dire que la prophétie soit arrêtée durant 38 ans? Eh bien, il n'y a plus justement de contact avec la vie entre guillemets, parce que c'est vous-même qui l'avez coupé. En disant qu'il y a une force dans ce monde qui est plus forte que lui. Or, lui, c'est Melech Chafetz Bachaim, le Ma'anach Elohim Chaim. Toute la tefila de Rosh Hashanah, il faut la jeter à la poubelle, sinon. Et donc, Yelchou Mechaïl El Chaïl. Les Chachamim doivent aller, c'est quoi Chaïl? Une force. En hébreu.
Force qui va.
D'accord. Chaïl, c'est une force. Osei Chaïl, c'est quelqu'un qui avance. Quelle est la valeur numérique? 30 plus 10, 40, 48, c'est Moach, un cerveau. C'est ce qu'on appelle les Mochim. Yelchou mi Moach el Moach. Il faut qu'il monte d'un Moach à un autre Moach. Qu'est-ce que ça veut dire dans le sens kabbalistique? Qu'ils aient de plus en plus d'éléments vivants qui les pénètrent. Parce que les éléments vivants s'appellent Mochim. Mochim de Gadlut. D'accord? Dans la Kabbalah, Chochma et Bina. Par exemple, je mets les tefillin de Rashi, c'est le Moach de qui? De maman. Après, je mets les tefillin de Rabben ou Tam, c'est les Mochim de qui? De papa. J'ai monté de niveau. Vous comprenez comment ça marche? Et donc, je ne peux jamais m'arrêter. J'ai un moteur qui me pousse sans arrêt à remplir mes cerveaux, à remplir mes kelim de la lumière de ce cerveau. Abaïma. D'ailleurs, c'est très très bizarre. Il y a marqué Yelchou Mechail El Chail. À partir du. Quand tu fais ça, quelle est la suite du verset? Yerae El Elohim Betzion. Yerae El Elohim Betzion. Eh bien, je prends le mot El, je ne veux pas l'écrire en toutes les lettres. Et je prends le mot Elohim, la même chose. Et je prends le mot Tzion, parce qu'il y a marqué Yerae El Elohim Betzion. Donc, ceux qui font ça, qu'est-ce qu'ils font en réalité? Ils vivent chaque instant comme étant un instant, qui n'est pas le même que l'instant d'avant et l'instant d'après. D'où est-ce que je sais ça? C'est très facile. El, c'est 31. Elohim, c'est 86. 31 plus 86, ça fait combien?
107
qui va rentrer, Yerae, il va se dévoiler, El Elohim, dans Tzion. Donc Tzion, c'est 156. Donc 107 dans Tzion plus 156, combien ça fait? 273. 273, 200 resh, 3 guillemets, 70 à un rega, un instant. Extraordinaire. Ça veut dire que si ta vie c'est un instant, et chaque instant n'est pas le même instant qu'avant, parce que tu es en train d'avancer, ça veut dire que quoi? Qu'est-ce qui t'anime en toi? Eh bien, trois éléments. Tu as du ratson, tu as du gargoua, c'est-à-dire des languissements. Mais en même temps, tu restes anav, tu as l'humilité. Si tu n'as pas ça, si vous n'avez plus envie, je vous donne une solution pour partir. Hein. C'est très simple. Hein. Je rigole pas. Hein. C'est très simple. Arrêtez le vouloir. C'est fini. Ne veuillez plus rien. C'est fini. Vous allez passer 3-4 semaines à la coupe à trolley, mais après, c'est fini. C'est pour ça qu'il faut sans arrêt avoir des points vers lesquels je vais. Alors il y a certains vieux, vieilles personnes, qui attendent le mariage du petit-fils. Après il s'en va, parce qu'il a décidé que c'est le point qu'il doit atteindre. Tant qu'il voulait, tant qu'il languissait avec toute humilité, il pouvait vivre cet instant. Il dit, maintenant que j'ai vu, je peux mourir. Eh bien, c'est exactement ce qui va t'arriver. Si tu avais une autre volonté, tu ne peux jamais t'arrêter. Tu ne peux jamais mourir.
Comment vous expliquez la mitameshona?
Ça, c'est encore autre chose. Il faut savoir les gilgoulim. Non. Il y a des gilgoulim, il y a plein, c'est énorme. Il y a plein de choses. Des gens sont venus avec des éléments. On est tous avec un sac à dos. Surtout si on vous a donné le prénom de quelqu'un d'autre.
Une valise.
Quelle? C'est des valises entières. Et vous vivez des identités différentes. Je suis toujours dans les couleurs. Hein. Je ne suis pas encore rentré. Hein.
Je n'ai pas oublié les couleurs.
Je n'ai pas oublié les couleurs, à vos tailles. C'est-à-dire, mais il faut que vous compreniez que quand on étudie un sujet, ça ouvre un éventail énorme.
Il y a une erreur.
Dans quoi?
C'est
173,
c'est
263.
Oui, c'est
117. C'est parce que ici, c'est
17.
C'est tout.
C'est bon,
c'est le compte est bon, ne vous inquiétez pas. Donc, en réalité, il y a des gens qui vivent comme des enfants. C'est-à-dire, ils ont une ashlaya. Je ne sais pas comment on traduit ça en français. Une illusion. Okay, qu'en réalité, on peut toucher Dieu. Tu ne peux pas toucher Dieu. Un adulte pense et sait que tu ne peux pas toucher l'infini. Donc la seule chose que tu peux toucher de lui, c'est ce qui va rentrer en toi. Donc je vais faire rentrer de lui en moi plus chaque jour, eh bien je suis de plus en plus vivant.
C'est tout.
Parce que lui, c'est la source de la vie. C'est aussi simple que ça, Rabotai.
Mais pourtant on contredit toutes les grandes théories. On va prier sur la tombe de Rabbi Meir qui est au ciel, qui est près de Dieu, qui va nous sauver, etc.
On n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit qu'on va prier la tombe de Rabbi Meir qui est aux cieux et près de Dieu. Jamais on a dit une chose pareille.
Qu'est-ce qui devient de ces morts, justement?
Eux aussi, ils regrettent d'être morts, parce qu'en réalité, ils sont tombés, malheureusement, par la faute du premier homme. Et c'est pour ça que le Rabbi Meir, puisque vous l'avez cité, il n'y a pas meilleur exemple. Dans sa Torah, lui, il a refusé d'écrire Koutnot Or, que Akadosh Baruch Hu a donné après la faute du premier homme des vêtements de peau. Il dit, moi, je continue avec Koutnot Or, je veux rester dans la lumière. Mais malheureusement, on est tous tombés dans ce piège, il va falloir corriger tout ça. Ne prenez pas des exemples pareils, Chas v'Chalila, parce que vous êtes en train de sublimer la mort.
Il n'a pas été enterré de vous, lui.
Ça, c'est autre chose.
Mais oui, ça rejoint ce que vous dites.
Ça veut dire le but... c'est de revenir. Le dernier article du Rambam, c'est Triat HaMetim. Ça veut dire, le but, c'est que la vie gagne, et pas la mort.
Pour qu'il y ait résurrection,
on sublime la mort.
C'est une fois que la mort est arrivée, avec la chute, qu'il faut arriver.
Est-il possible que la mort gagne la vie?
Non, c'est impossible. C'est juste momentané. C'est-à-dire, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est 6000 ans, où la mort est, entre guillemets, gagnante. Mais en réalité, c'est pas possible.
Non, c'est un processus.
C'est un processus. Mais en réalité, le but, c'est de revenir à la vie. Donc, c'est une erreur de parcours. Et une fois que cette erreur a été faite, alors on continue de mourir parce que, pour l'instant, on n'a pas encore corrigé. Mais à chaque fois qu'un homme ou une femme meurt, on dit, on répète le verset. Vecherpat amo yasir. Traduction.
Il enlèvera
la honte. La mort est une honte. Un scandale. Cherpa. Boucha vecherpa.
Il y a un qui est quelqu'un qui est assassiné par un terroriste.
Encore une fois.
C'est autre chose, ça.
Toujours le même système. Regardez combien il est difficile de vous enlever la beauté de la mort. On dirait que vous avez envie de mourir.
Je suis en train de vous dire
que la vie, c'est l'essentiel, et vous êtes en train de me dire, mais quand même, la mort, et les morts, et les tzadikim, et les machins.
Mais la vie, c'est une craque, la mort, c'est le repos.
Zelon Achon, la mort, ce n'est pas le repos. Tzadikim, elen menucha, loba olam azeh, veloba olam apa. C'est pas du repos. Chenehemar, yelchumecha, yelchai. Donc, c'est pas du tout ce que vous pouvez penser, même si dans tous les cimetières, il y a marqué ici repose, ici repose, ici repose, ici repose. Et moi, quand je m'en vais, je me dis, il y a que moi qui travaille en fait.
Enfin, on dit aussi
Baruch Dayan,
Nahon.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois l'homme mangé de la de ce fruit, il y a un émet maintenant qui doit apparaître. Donc, béni sois-tu l'Éternel qui respecte ce qu'il a dit. C'est tout. Le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est tout. Il est mort à 970 ans. C'était un jour. 930 ans,
pardon.
C'est la même faute. C'est la même faute. D'accord ? Alors, c'est un scandale. La mort est un scandale. Et si vous attendez le Mashiach, au risque de vous déplaire, les morts vont revivre.
Tant mieux.
Ben, on ne dirait pas. Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes dans un processus qui repart vers la vie. C'est pour ça que d'abord, la première des résurrections des morts, c'est revenir sur sa terre. Ézéchiel 37. Quand vous reviendrez sur votre terre, ça équivaut, dit le prophète Ézéchiel, de sortir de vos tombeaux. Vous comprenez l'hébreu, hein, je ne suis pas en train de vous raconter de ça là. Vous allez commencer à retrouver le système de vie, c'est-à-dire la correction de la faute du premier homme passe par le retour du peuple d'Israël sur sa terre. Et c'est le début de la résurrection des morts. Et c'est pour ça que nous devons être de plus en plus actifs, donc vivants. Donc, de plus en plus vitaux. Tu veux être vital, tu veux vivre, Rabbi Chaim, vital. C'est tout. Et donc, je ne peux pas toucher l'infini. Je ne peux toucher que ce que de l'infini me pénètre. Vous avez bien compris ça. Et donc, en réalité, je dois m'efforcer de plus en plus à devenir divin sur terre. C'est-à-dire manger des éléments de cet infini. C'est tout. Et de savoir qu'en réalité, je suis dans un ventre extrêmement large, qui est aux mesures de l'univers, et je dois en réalité me nourrir. À chaque fois, je me nourris du ventre dans lequel je suis. Quand je suis dans le ventre de ma maman, je me nourris de ce qu'il y a dans ce ventre. Quand je sors de ce ventre, je suis dans un autre ventre. On est encore dans un ventre beaucoup plus grand, c'est tout. Alors les parois de la maman dans laquelle j'étais sont devenues les parois de l'univers. C'est tout. Mais je consomme, je prends de ce vivant. Donc je vis de son être vivant, infini béni soit-il. Alors le premier rapport, le véritable rapport entre Dieu et nous, c'est la vie. Je vis parce qu'il est la source de la vie. Donc je vis de son être.
Où sont les couleurs ?
Quand vous comprenez ça, vous allez commencer à comprendre.
Les couleurs.
Si vous voulez passer directement aux couleurs, vous allez perdre en réalité l'essence des choses.
Non, c'est très important.
Donc chaque appréhension que j'ai de Dieu, de l'infini béni soit-il, on appelle Dieu en français parce que c'est du grand n'importe quoi. Mais bon, on parle en français, alors on est obligé d'utiliser des termes qui n'ont aucun rapport. C'est tout simplement ce que je peux vivre de lui, dans ma subjectivité à moi. Donc en réalité, toute ma vie, je ne fais qu'une seule chose. Je veux savoir comment Akadosh Baruch Hu me traverse, dans tout ce que je fais. C'est-à-dire, je ne peux pas savoir quel est le chesed d'Akadosh Baruch Hu, si ce n'est que par le chesed que moi je fais. Vous avez compris ? Quand vous parlez style « Dieu, il est chesed », de quoi tu parles ? Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Tu ne peux comprendre le chesed de Dieu que par le chesed que toi tu vas faire à ton petit niveau, à toi personnel. Terrible. Sinon, tu pars de n'importe quoi.
Et quand je vois tous les fruits, tout ce qu'il y a dans la nature, tout ce qui pousse.
Encore une fois, c'est subjectif.
C'est la vie qui est.
Mais c'est subjectif. Tu le vois parce que ça te pénètre. C'est d'accord. Mais c'est énorme, énorme ce que je suis en train de vous dire.
On peut voir un peu.
Il y a fait. Et maintenant, on va y arriver. On va y arriver. On y arrive. Ne vous inquiétez pas. Ça veut dire que chaque particule de ce monde, je la vis que par mon écran, que par ma structure à moi, personnelle, subjective, parce que c'est à moi. C'est pour ça que les gens te disent, au niveau par exemple de la Tzedaka, qu'est-ce qui va te rester en réalité de ton argent ?
La Tzedaka.
Seulement ce que tu as donné. Pourquoi ? Parce que c'est la seule chose que tu as réellement
donné.
Fait partie de ton être à toi, donc c'est la seule chose qui t'appartient.
Oui.
C'est énorme. C'est magnifique. Donc en réalité, c'est ce qui va définir chez moi tous les éléments. Alors je vous ai donné un exemple du chesed. Et donc chaque fois j'avance, chaque instant, rega, avec la possibilité d'être dans le ratson et dans le gaagua. C'est-à-dire si tu ne languis pas quelque chose, tu ne peux pas avancer vers cette chose-là. Si tu ne veux pas cette chose, seulement pour calmer tout ça, il faut que tu sois dans l'humilité. Mais en réalité, comment je peux savoir que quelqu'un est grand? C'est parce qu'il veut avaler le monde. Ça, c'est quelqu'un de grand. Pourquoi, disent les kabbalistes? Parce que ça sous-entend qu'il veut partager le monde. Donc, il veut l'avaler. Donc, un homme immense, c'est quelqu'un qui veut beaucoup pour donner beaucoup. Autrement dit, quand je veux devenir un Talmid Chacham, c'est pas pour qu'on m'appelle Rav. C'est pour que je puisse, en réalité, partager cette grandeur infinie, parce qu'au moment où je la donne, elle est en train de me traverser. Moralité, celui qui étudie plus au moment où je vous donne un cours, c'est moi. Et oui, parce que je suis en train de m'ouvrir à des particules de connaissances qui me traversent parce que je les donne, alors ils continuent de me les donner. C'est énorme. Et c'est la seule chose qui va me rester. Si tu as mangé un cours, mais tu ne le redonnes pas, il va s'éteindre. Tu vas l'oublier dans un mois, dans deux mois, dans trois mois. Alors les couleurs sont différentes selon chaque personne. Vous avez l'anguille, les couleurs. Vous les vouliez. Eh bien, les voilà. Ça veut dire que même votre façon de voir une couleur n'est pas celle de votre habit. Alors, on est tous d'accord que ça, c'est jaune, mais tu ne sais pas exactement comment l'autre voit ce jaune. Vous savez, les milliards de possibilités de voir quelque chose, et les daltoniens, ils voient des couleurs, mais ils les voient différents. Ça veut dire qu'en réalité, chacun de nous voit, on a dit tseva ou teva, la nature, en réalité, selon son prisme à lui. Donc j'ai un prisme, alors que la couleur, elle, apparemment, elle est objective, elle descend, elle est comme elle est. Eh bien non, dès qu'elle traverse l'univers, dès qu'elle traverse l'atmosphère, dès qu'elle traverse le prisme des couleurs, elle éclate en une fragmentation de milliers, de milliers, de millions de couleurs.
C'est l'infinité ou c'est des milliers de millions?
Une infinité. À notre niveau, c'est déjà l'infini. C'est-à-dire, c'est pas, il y a toujours des infinis. Il y a des infinis mathématiques qui sont limités. Il y a l'infini béni soit-il qui, lui, n'est pas limité. C'est comme quand tu dis 1. Kakadosh Baruch Hu, il est Echad. Il est Echad par rapport à 2? Non. Il est Echad, Yachid ou Meyuchad. C'est pas 1 par rapport à 1, 2, 3, 4, 5. Sinon, on sort du système, on n'a rien compris. Alors, comme on n'a pas de possibilité au niveau humain de parler autrement que les paroles qui nous sont, encore une fois, limitées, donc nous sommes obligés de dire des choses, mais effectivement, ta question est à sa place, il faut expliquer chaque chose. Et chaque fois que tu crois que tu as compris quelque chose, je peux répéter le même cours que je viens de donner jusqu'à maintenant. Je recommence depuis zéro, c'est un autre cours.
Et donc la couleur est agissante.
Et donc la couleur, selon le spectateur qui voit la couleur, c'est le spectateur qui va faire en sorte que l'expérience colorée va changer selon lui. Eh bien oui. Même au niveau physique aujourd'hui, on fait une expérience devant moi, on va faire la même expérience devant l'autre, ça ne sera pas la même.
C'est ce qu'on appelle la mémoire de l'eau.
Exactement, par exemple. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a une infinité de possibilités d'aller vers mon ami. Je peux aller comme ça, et je peux aller comme ça, 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 je peux aller comme ça. Vous comprenez? Si je tire des ficelles de moi vers Baruch, combien de ficelles je peux tirer? Une infinité! Une infinité! Et chaque ficelle, en réalité, elle dit, mais moi je suis connecté de Yoël à Baruch. Elle ne ment pas. Et pourtant, c'est une autre façon de voir, une autre façon de, une autre longueur, une autre distance, un autre éclairage. Incroyable. Tout ce que je viens de vous dire, David Amelech le dit en une phrase. Achat diber Elohim, shtaim zu shamati. Voilà. Dieu parle dans un code qu'on ne comprend pas, puisqu'il parle dans l'unité, et nous, l'unité, on ne connaît pas. Nous, ce qu'on connaît, c'est par rapport à ce que je suis moi. Donc, moi, je suis différent de lui, donc je suis deux. Il y a au moins deux. C'est le minimum du pluriel. Deux veut dire des milliards. Donc, shtaim zu shamati. Ça veut dire, dans ce monde, je ne peux recevoir que parce que je suis différent. Donc, shnaim, shone, shone, shnaim. C'est la même chose. Tout est dans le changement de perception des choses. Alors, quand quelqu'un, par exemple, se sent mal, il est dans une situation pas bien dans sa vie, eh bien, en réalité, qu'est-ce qu'il fait ?
Eh bien, la réception
d'un tel. Il y a fait, mais Dieu passe, entre guillemets, moins en lui. Vous êtes d'accord ?
Oui.
Parce qu'en réalité, il est en train de couper le lien de vitalité avec l'infini. Donc, Ras Vechalila, l'objet, l'object, on va parler maintenant de l'infini, il est maintenant en lui ou à l'extérieur de lui ? Il est à l'extérieur. Donc, Dieu devient pour un homme ou une femme angoissée, quoi ? Un élément étranger à sa vie. Et si Dieu devient étranger à ma vie parce qu'il ne rentre plus en moi, ça veut dire que je peux arriver à un dégoût parce que je ne veux que personne qui est étranger à moi rentre dans ma vie.
Dépression.
Et donc ça devient religieux. Ben, la religion, c'est quoi ? C'est qu'il y a un maître qui est en dehors de moi et qui m'oblige à faire des lois qui n'ont aucun rapport avec ma vie, et si je ne fais pas ces lois, je vais mourir. C'est tout, c'est infantile. Il y a beaucoup de gens qui vivent la religion comme ça. Donc, Ras Vechalom, qu'est-ce que j'ai fait ? En ne laissant pas me traverser par le flux de l'infini, j'ai fait en sorte que je vois maintenant l'infini comme un élément étranger à moi qui vient me forcer à faire des choses. Et j'en ai marre. Et je commence à faire des rejets. Comme un vomissement.
C'est ça qui arrête.
Ok. Et donc, Ras Vechalom, l'homme, tout seul, s'éloigne de la vie. Parce que la vie ne rentre plus en lui. Il empêche, par sa structure momentanée de l'angoisse, de la peur, de n'importe quoi. Tout à l'heure, je me suis arrêté sur la route parce qu'une femme que je connaissais a eu un accident avec un arabe. Sur la route. Donc, je passais, j'ai vu la femme, j'ai vu tous les Arabes autour d'elle, je me suis arrêté. Pour faire le numéro 100, ça lui a pris 10 minutes. Pourquoi ? La panique. Tu appuies sur n'importe quoi, tu ne sais même plus ce que tu fais. Vous comprenez comment ça marche ? Ça veut dire que ce moment de panique, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fermé en réalité ta vitalité. À ce moment-là, tu es comme mort. Et tu fais des gestes déconnectés de la raison, déconnectés de tout. C'est du grand n'importe quoi. T'appuies et tu te demandes ce qui se passe. Il y a des choses qui apparaissent, des images. Mais tu dis, mais c'est où le clavier ?
Mais c'est typiquement féminin.
Non, c'est pas typiquement féminin. C'est typiquement panique. Quand quelqu'un est dans une panique, il est comme ça.
C'est pour tout le monde.
Et il commence à trembler, il commence à machin. Et les autres qui commencent à lever la voix, jusqu'à ce que j'ai levé moi-même la voix avec tout cela là-bas, et je dis, ou tu descends ta voix, ou je t'enlève la tête. Il fallait savoir, il y a des langages qu'il faut savoir parler.
Il faut dire des fois.
Et à partir de ce moment-là, le mec, il s'est calmé. On m'a dit, heureusement que tu es venu, je ne sais pas, ils sont tombés du ciel. Puisqu'elle a son mari est mort depuis quelques mois, elle est seule, elle était dans une panique.
De quoi ?
Quelle ?
Mais on est relié au clan, même si on est...
Ah, il est athlète, il est athlète. Tu veux manger tous les cours, c'est bien. Ratson, Gargoua, c'est bien. Donc la personne qui ne vit pas en réalité à ce rythme-là, il est gossesse, c'est-à-dire il est mourant.
Il est mourant.
Et donc, Ras Vechalom, qui va prendre le dessus, la couleur de base. Quelle est la couleur de base ? le rouge, la vie. C'est-à-dire le minimum de la vie, la terre, l'endroit par lequel il vient. Or, le rouge, on a dit que c'était Midat HaDin. Donc, en réalité, il tombe tout seul dans un système de Chas V'Shalom, de mesure de Din, où il ne peut plus s'en sortir. Et donc, tout ça, ça demande un mitouk, ça demande un adoucissement. Pour les Itmazeg, me connecter encore une fois, réouvrir le canal avec l'infini. D'accord ? Alors maintenant, je vais vous expliquer comment ça marche au niveau de l'arc-en-ciel. Eh bien, puisque nous sommes dans les couleurs, attachez vos ceintures et vous allez comprendre.
Je pense aux couleurs de la Gay Pride, vous pouvez les découper dans le
bleu. Non, vous
voyez comment tout est subjectif ? Chacun voit une référence. C'est la parole, mais c'est en réalité des références. Quand je vous dis un mot, chacun va avoir une référence dans sa tête. Que ce soit parce que ça le dérange, que ce soit parce que ça lui fait peur, que ce soit parce qu'il aime, que ce soit parce que ça le dégoûte. Peu importe, ça devient sa référence. Alors, l'arc-en-ciel, il est en réalité toujours dans ce sens-là. Vous avez remarqué ?
Oui, oui.
Pourquoi il n'est pas comme ça, l'arc-en-ciel ?
C'est caché.
C'est l'eau, c'est la voûte.
Il barre de l'eau, non ? Il démarre de l'eau.
Il démarre, c'est un mélange d'eau et de lumière. Il n'y a pas que de l'eau.
Il redescend dans l'eau.
Non, mais pourquoi il est comme ça ? Alors ça, c'est au niveau physiologique. Il démarre de l'eau, donc il va faire un chapeau dans ce sens-là. Mais au niveau de la Kabbalah, et c'est important aussi de le savoir, c'est pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas nous tirer une flèche dessus. Il ne veut pas nous tuer. Parce que si l'arc était comme ça, ça veut dire que Dieu nous tire dessus, qu'il va nous tuer. Or, il y a une promesse à chaque fois que l'arc-en-ciel apparaît dans le monde, c'est que le monde, à ce moment-là, aurait dû être
détruit.
Et Akadosh Baruch Hu, comme il a promis à Noah de ne plus détruire le monde par le déluge, il fait un arc-en-ciel de paix, comme un guerrier qui met son arc-en-ciel, les flèches vont vers le haut, ne t'inquiète pas, je ne suis pas menaçant. J'efface pour l'instant, juste que vous compreniez. Combien, d'après vous, il y a de couleurs de base dans l'arc-en-ciel ?
7.
Qui dit mieux ?
8.
Qui dit mieux ?
9.
Il y a fait, mais autre. 5. 5 couleurs. Les voilà, les 5 couleurs. Vous vouliez les couleurs ? Voilà, c'est un cours sur les couleurs, c'était très important. De savoir ce qui est en train de se passer. La première couleur, c'est le rouge. Adam. Pourquoi ? Parce que c'est le din. Étant donné que le din doit être radouci, il va falloir commencer à comprendre, comme je vous l'ai dit dans le cours précédent, qu'il y a un mélange de couleurs naturelles qui va faire en sorte que le rouge soit moins rouge. Donc, qu'est-ce qui est encore rouge, mais moins rouge ? Le orange. Donc, après le rouge, vient le orange, 14. 2. Après le orange, qu'est-ce que va venir, d'après vous ?
Jaune.
Il y a fait, mais honte, ça s'éclaircit. Donc, ça va être un jaune. Et je vous ai dit la dernière fois que le jaune, c'est aussi un vert. Ça veut dire que c'est un jaune yarok, tsahov yarok. Donc, vous allez voir cette couleur. Une fois que ça a traversé, là, vous êtes déjà dans un degré qui va passer maintenant. Là, on est à gauche ou à droite ?
À gauche.
On est à gauche. On a commencé par le côté gauche, Midat HaDin. Là, maintenant, on passe à droite. Quelle est la première couleur droite ? Je vous le rappelle ? Non.
Le bleu.
Rappelez-vous du cours précédent. Donc, on passe à partir de ça au bleu, Kahol, mais pas n'importe que bleu. Un bleu indigo.
Indigo.
Et une fois que ça, maintenant, ça a été adouci, on arrive, en réalité, à notre essence. Comment on dit l'essence en hébreu ? La ségoula. Donc, le sagol, le violet. Attention, pour ceux qui ne parlent pas bien l'hébreu, le ségol, c'est 3 points, mais la couleur ne se dit pas ségol, elle se dit sagol. Ok ? Attention, c'est pas pareil. même si c'est les mêmes lettres. On ne dit pas Tseva Segol, on dit Tseva Sagol, Aval Nikud Segol. Qui est en réalité le secret de l'équilibre aussi. Parce que c'est les trois points, c'est-à-dire la droite, la gauche et la centralité. Ça veut dire qu'on a fait ici un voyage du Din et on est descendu vers les Rachamim, vers la miséricorde. Et ça, en réalité, se passe, ce phénomène, à chaque fois qu'il y a un arc-en-ciel.
Alors, quelle est la couleur qui va s'ajouter ?
Est-ce que je dois regarder cet arc ? Qu'est-ce que je dois faire quand il est là ?
On regarde.
Il faut juste voir une fois parce que tu l'as vu,
oui.
Mais après tu ne le regardes
plus.
Il ne faut pas le regarder, il ne faut pas le fixer. Il faut faire une bracha. Zohar Abrit. C'est-à-dire, tu te rappelles de l'alliance que tu as contractée avec nous pour ne pas nous détruire, c'est-à-dire pour adoucir le din et amener des rachamim. Puisque nous y sommes là, qu'est-ce que c'est rachamim ?
Racham.
C'est le pluriel de rechem, qui veut dire
la matrice.
Donc en réalité, pourquoi la matrice c'est Rachamim ? En quoi il y a des Rachamim par rapport au Din ? Est-ce que j'ai annulé le Din ?
Non.
Oui ou non ?
Non.
Alors qu'est-ce que j'ai fait ?
Il y a une évolution.
On a
adouci.
Le Rechem donne la vie.
Adouci.
D'accord, tout ce que vous dites c'est vrai. Est-ce que Dieu, quand il a une Midat Hadin sur quelqu'un, il annule cette Midat Hadin?
Parfois.
Non. Sinon, Chas Veshalom, c'est comme s'il mentait.
Ça dégozer Akadosh Baruch Hu Mekayem.
Comment il est Mekayem? Qu'est-ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu devait jeter Chas Vechalila un caillou énorme sur une personne. Est-ce qu'il va annuler ce décret? Il ne peut pas l'annuler Akadosh Baruch Hu Chas Veshalom, sinon il serait menteur.
Alors il déplace ?
Non, il va transformer cette pierre en poussière. Donc il va jeter toute la pierre en forme de poussière. Et il va lui dire, voilà, je t'ai jeté la pierre. Extraordinaire. Il la jette, mais en réalité, il n'y a plus rien, c'est du vent. Mais il n'a pas abandonné le din. Donc en réalité, comment je peux traduire ce que je viens de dire au niveau de la vie ? Là, je vous ai donné un exemple infantile, mais qui est important. Qu'est-ce qu'en réalité on a gagné entre le din et le rachamim ?
On est dans le temps.
Il y a fait mode.
Quoi, j'ai compris.
Voilà la clé. Chazak ou Baruch. Le temps. Rachamim veut dire donner du temps. C'est tout. Et c'est pour ça qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu veut que le bébé vienne dans ce monde instantanément après le rapport entre papa et maman. Ça s'est déjà passé dans l'histoire ?
Non.
Bien sûr. Adam et Rishon. La Gemara nous dit Adam et Chava sont montés dans le lit explicitement deux, ils sont descendus sept.
Sept.
Avec chacune avec ses jumelles. Vous comprenez ? Donc il y a eu une époque, encore une fois, vous voyez que le monde dans lequel vous vivez aujourd'hui, c'est pas la nature première. Deux, Dieu nous a donné maintenant le temps. Donc maintenant, la femme va passer 9 mois de Rechem, donc va donner des Rachamim, pour que la Neshama, qui ne voulait pas descendre dans ce monde, elle s'habitue tout doucement, tout doucement, tout doucement à ce monde. Mais à la fin des temps, on va revenir à quoi ? Il y a marqué dans le verset du prophète, Hara veyoledet yachdav. Elle va être enceinte et elle va accoucher en même temps. Ça veut dire on va annuler les 9 mois. Vous comprenez l'immensité de la Torah, Rabotai ? Rabotai, ce sont des shiurim que vous devez étudier, que vous devez comprendre, parce que c'est ici la matrice de la vie. Bémet. Et je travaille énormément pour vous nettoyer le maximum pour vous faire comme une maman qui veut donner des morceaux de poulet à manger à son enfant. Machine. Pour enlever des petits os, des petits machins, pour vous tout mâcher pour que ce soit encore comestible. C'est pas évident du tout. Okay.
Est-ce que ça a un rapport avec les sphirotes ?
Mais voilà que ça a un rapport avec les sphirotes. Puisque le keter, pour arriver à la maltroute, il doit descendre 9 sphirotes. Voilà, les 9 ne vont pas, les neuf s'habillent dans les cinq. Combien de partsoufim? Toi, tu ne vois pas? C'est la dernière à devoir poser cette question. Puisque combien de partsoufim il y a en 10 sphirotes? 5. Alors, qui était la dernière à devoir poser cette question?
Moi, j'ai une autre question. Pourquoi vous avez fait abstraction du vert? De la couleur verte.
J'ai pas fait abstraction, il est là.
Oui, il est dans le jaune.
Non, c'est tout simplement parce qu'on l'appelle jaune, mais l'Agmara l'appelle Yarok.
Yarok, ouais.
J'ai fait 6 ans de Beaux-Arts, et moi on m'a appris qu'il y avait les 3 couleurs primaires.
Ça c'était le chiour de la semaine dernière, vous étiez?
Oui.
Alors, je l'ai dit. Le chiour de la semaine dernière. Attention. Les couleurs primaires, le vert n'est pas une couleur primaire, de base. Ah, il y a fait. Donc c'est un mélange entre le jaune et le bleu. Donc c'est pas ça. Donc il faut savoir...
La même chose pour l'orange.
Mais peu importe, je suis en train de dire ici, je n'ai pas parlé des couleurs primaires ici. Au contraire, j'ai dit que maintenant, pour adoucir le din, il va falloir mélanger avec les couleurs pour les adoucir, pour diluer en fait la couleur.
Mais plus on s'élève vers Keter et plus on va vers le blanc. Alors pourquoi ça commence par le rouge?
On n'est pas dans Keter.
C'est le din.
On n'est pas dans Keter pour l'instant. On est pour l'instant dans la Midat Hadin. Et il faut comprendre d'où elle vient. On n'est pas encore. Et pour madame qui a dit que j'ai négligé le vert, je vais terminer le cours en vous disant qu'en réalité, on revient à quoi? À la racine de ce monde qui est le vert. Et c'est pour ça que la nature est tellement verte et que les gens qui sont dans la nature, par exemple, qui est né quand son papa avait 86 ans? 86, c'est la valeur numérique de la nature. Ishmael. Eh bien, Ishmael, la couleur de tous les Arabes, il y a toujours du vert dedans. Parce qu'ils sont dans le degré de rechercher en fait la nature, ils sont liés à la nature. Parce qu'ils sont dans le désert et ils veulent toujours des coins verts. Donc en réalité, ils sont attirés par ce vert-là. Et moralité, c'est une couleur qui est très importante dans la vie parce qu'elle redonne l'équilibre. Aussi, il y a un vert bleuté, c'est celui que vous voyez à Tzfat. C'est pas un bleu turquoise, comme on... C'est un bleu turquoise, en fait. Turquoise, c'est avec du vert. D'accord?
Est-ce que les couleurs ont des symboles?
Oui. Les couleurs ont des symboles. Je ne suis qu'au deuxième cours. Si vous avez la patience, je ne sais pas. À l'allure où ça va, à mon avis, on va arrêter à 2 cours. Parce que...
Non, non, au contraire, est-ce qu'on continue par
Je ne sais pas, moi, ce que vous voulez. Que... À chaque fois que je sors un mot, j'ai l'impression qu'il faut que je me batte pour qu'il passe.
Non, on a quoi la semaine prochaine?
Là. Je dois passer une intervention médicale, donc je ne sais pas encore s'il y aura cours la semaine prochaine. Donc j'aurai les résultats Bezat Hashem ce mardi, donc je vous tiendrai au courant. Bezat Hashem. Oui, il y a aussi répéter et réétudier les cours sur le site. Parce que il n'y a aucun cours qui peut rester réellement si vous ne répétez pas, si vous n'écoutez pas, si vous n'écrivez pas, si vous ne faites pas votre propre cours sur le mien. C'est comme ça, c'est une chazara, en mala asot. D'ailleurs, tout ce qu'on fait dans ce monde, c'est une chazara. La preuve, c'est que là-bas, ça s'appelle Mishnah. Veut dire quoi, Mishnah? Mishnah, il répétait. C'est une Mishnah de quoi? De tout ce qu'on a étudié quand on était dans le ventre de maman.
Mais dans ces couleurs, elles sont agissantes, elles agissent.
Les couleurs sont agissantes selon celui qui les reçoit. Attention, ça fait déjà 2 fois que tu poses la question, je l'écoutais tout à l'heure. Je me dis ça va lui passer, mais non, comme c'est pas passé, alors je te réponds. J'ai attendu. Je t'ai donné un acamole, mais ça n'a pas marché, c'est bien.
Excuse-moi. Les gens peuvent s'adresser à nous selon la couleur inconsciente.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et selon une gamme de notes qui sont aussi des couleurs. Pareil, pour l'instant je vous ai parlé des couleurs, mais j'aurais pu faire la même chose avec la musique. D'ailleurs j'ai fait ça avec des musiciens. J'ai travaillé pendant 1 an avec un musicien que sur les sons. C'est pas évident.
Ah, non,
c'est évident. C'était le musicien d'une femme qui n'avait pas de son. Véronique, sans son.
Ah,
non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une lumière, cette femme, au niveau de la musique. Oui. Et c'était son guitariste. Et donc, j'ai travaillé avec lui concernant les couleurs. Ce que je voulais vous dire, et avec ça, je termine pour aujourd'hui, et c'est aussi pour Suzanne, la bina qui est la racine de notre monde, elle est verte. La bina, elle est verte puisqu'elle a donné naissance à la nature qui lui-même, qui elle-même est verte. Donc la source de la bina, c'est verte. C'est pour ça qu'en réalité, à chaque fois que vous voulez parler de corriger quelque chose, de rendre pur quelque chose, entre guillemets, si vous vendez des médicaments, mettez toujours du vert. Un vert d'eau, un vert pâle, ça donne propreté, limpidité. Blanc, ça fait hôpital, ça fait peur. Vert, c'est la couleur de l'équilibre retrouvé. Toda rabba.